France Inter. Le 7-9, intervenez.
Au 01 45 24 7000, avec d'abord Denis qui nous appelle de l'Oise, de Picardie. Bonjour Denis.
Oui, bonjour Monsieur Cohen.
Nous vous écoutons.
Et bonjour à votre invité. Une petite parenthèse, j'aimerais remercier votre invité par l'hommage qu'il a rendu à Oncle B. Il reconnaîtra Oncle B, certainement.
Oncle Bernard.
Voilà. Oui, donc j'aimerais lui poser des questions sur le contrôle de la BCE, sachant que celle-ci est un obstacle à la sortie de la crise, dans la mesure où elle encourage systématiquement les marchés financiers, l'austérité, j'en passe, la lutte contre l'inflation. Et sachant que cette même banque européenne est statutairement indépendante et échappe aujourd'hui à tout contrôle démocratique, comment M. Jean-Luc Mélenchon va-t-il pouvoir contrôler cette même BCE sans l'adhésion de l'ensemble des pays européens et particulièrement les pays de la zone euro?
Merci.
Sans changer fondamentalement les traités.
Merci Denis Limuanoc.
Écoutez, la Banque Centrale n'est pas si indépendante que ça. Elle est mise dans le jeu à chaque réunion de l'Eurogroupe où elle a un représentant qui assiste. Et on a vu au cours de la crise grecque qu'il y avait une certaine connivence entre certains chefs d'État et le président de la Banque Centrale pour éventuellement couper les liquidités à la Grèce. Donc ces décisions sont hyper politiques. Alors, après, une réserve, la Banque Centrale a changé de politique. À partir de 2012, elle est devenue plus keynésienne, c'est le jargon des économistes, que monétariste. Elle a arrosé massivement parce qu'elle craint la déflation aujourd'hui. Ce que craint la Banque Centrale Européenne, c'est une situation où vous n'avez pas assez de demande en Europe, tant les politiques d'austérité ont tué la bête aujourd'hui. Et elle essaye par sa politique monétaire de relancer l'activité. Mais ça ne suffit pas, la baisse des taux d'intérêt ne suffit pas. Et ce qui est à l'ordre du jour aujourd'hui, c'est la politique budgétaire, c'est-à-dire c'est la dépense publique. Tout le monde le dit, le FMI le dit, la plupart des macroéconomistes le disent. Il faut aujourd'hui qu'il y ait des dépenses en Europe pour relancer la machine.
Si les marges budgétaires existent, dit le FMI.
Et la Banque Centrale est même intervenue pour l'encourager implicitement, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, elle rachète tous les titres nécessaires s'il y a une tension sur les taux d'intérêt auxquels les États se financent. Donc, elle sent bien qu'il y a un rôle à jouer et nous allons appuyer là-dessus. Nous allons dire, puisque la situation est si grave en Europe qu'après la déflation, il peut y avoir une nouvelle récession, il faut aujourd'hui que tout le monde s'y mette pour relancer l'activité économique. Il faut que la Banque Centrale accepte de continuer de jouer le jeu. La seule chose qui nous empêche de le faire aujourd'hui, c'est les traités européens. Je l'ai dit tout à l'heure, personne ne les applique. Donc il faut les revoir pour permettre aux États d'engager les dépenses publiques nécessaires.
Bon, il faut quand même... Mais renégocier des traités européens, ça prendra beaucoup de temps et les années. Ça ne se fait pas dans les mois qui suivent.
Personne ne les respecte, là, je vous signale. Personne ne respecte le pacte de stabilité. Tout le monde s'arrange au Conseil de juin pour le contourner. Donc continuons.
Une très brève question. Pourquoi est-il si urgent de les changer, ces traités, puisque vous le dites vous-même, personne ne les respecte?
Parce que c'est un corset.
Mais c'est pas un corset si personne ne les respecte.
Un corset, ça impose un régime, même si vous y arrivez pas. Ça impose un régime et le régime auquel sont assujettis les États, aujourd'hui, les place sur une mauvaise trajectoire.
Oui, mais vous-même disiez à l'instant, et vous aviez tout à fait raison, que ces critères imposés par les traités n'étaient pas respectés aujourd'hui, qu'il y avait un accord en fait entre les capitales européennes pour ne pas les respecter. Alors pourquoi serait-il si urgent de changer les traités?
Parce qu'il y a un corset où vous avez un tableau de bord.
Attendez, on
va regarder les détails, je vais répondre à Bernard Guetta. Il y a un tableau de bord dans une directive qui s'appelle par exemple le six-pack, que vous connaissez. Il y a un tableau de bord qui somme les États de respecter des critères budgétaires, mais aussi des critères de réduction du coût du travail, ça nos auditeurs ne le savent pas, et des critères de respect de l'équilibre extérieur. Tout ça forme l'armature des programmes de réforme et de stabilité que les États doivent concevoir dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire la conception des lois de finances de janvier à juin, et on impose aux États des réformes qui vont spécifiquement dans un sens. Ce que vous appelez dans le jargon bruxellois les réformes structurelles du marché du travail, c'est-à-dire la loi El Khomri à Paris, ou encore la consolidation budgétaire, c'est-à-dire les politiques d'austérité budgétaire, tout ça est imposé. Même si ça ne marche pas et que ça conduit ensuite les États à être beaucoup plus pragmatiques, on continue sur une voie qui nous envoie dans le mur. C'est ça que nous voulons changer.
Pierre nous appelle de Paris. Bonjour Pierre. Allô, allô.
Oui, allô.
Oui, bonjour, nous, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons.
Deux questions pour votre invité que je salue. La première, est-ce que dans la réforme fiscale de Jean-Luc Mélenchon, il compte rétablir la demi-part que Jean-Marc Ayrault avait sauvagement enlevée et qui concernait les veufs et les veuves de ce pays? Et deuxièmement, à propos des niches fiscales, dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, l'avenir en commun, il est indiqué que chacune des niches fiscales serait évaluée et éventuellement supprimée si elle est injuste. Et je pense en particulier aux niches fiscales culturelles qui consistent en des millions de cadeaux des contribuables aux plus grandes fortunes françaises. Et je prends pour exemple ce qui s'est passé jeudi dernier où M. Hollande et Mme Hidalgo ont offert un cadeau à M. Arnault, le musée des arts et traditions populaires, qui sera réhabilité aux frais des contribuables par M. Guéris.
Merci Pierre Limanoc.
Alors, nous allons engager ce que j'ai appelé une révolution fiscale, c'est-à-dire que nous allons faire de l'impôt sur le revenu, qui est le seul impôt progressif, le pivot de notre système fiscal, et nous allons l'asseoir sur une assiette la plus large possible, qui taxe tous les revenus du capital, les revenus du travail, les revenus de remplacement, et donc il y aura une assiette sans niche fiscale. Je vais préciser ça pour notre auditeur, il n'y aura pas de niche fiscale du tout. Il y aura même plus de quotient familial puisque nous allons individualiser l'impôt et nous allons remplacer le système du quotient familial qui est particulièrement injuste parce qu'il profite pas aux familles nombreuses pauvres par un crédit d'impôt forfaitaire par enfant de 1000 euros par enfant. Comme ça, un enfant de pauvre et un enfant de riche vaudront universellement la même chose. Et puis, s'agissant des autres niches fiscales, nous allons les reconsidérer une par une. La Cour des comptes aujourd'hui estime qu'il y a 52 milliards de niches fiscales inutiles. Eh bien, nous en supprimerons 38 milliards, parmi lesquelles celles que vous avez indiquées.
Vincent nous appelle de Paris. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci pour vos émissions.
Merci à vous.
À l'heure du tétrapartisme et où rassembler la
tétra
gauche...
Tétra, c'est 4, hein. Voilà.
Tétra, c'est 4, oui.
Voilà.
Merci. Où la gauche représente 28% à peu près, c'est-à-dire serait en tête si elle était rassemblée. Et à l'heure où l'Allemagne et la France pourraient basculer à gauche en même temps, et bien basculer à gauche, excusez-moi, j'ai un bébé... est-ce qu'il n'y a pas une faute à ne pas se rassembler dès le premier tour et du coup nous propulser dans les bras de Macron? Et j'aimerais qu'on nous serve pas le mythe du PS qui est au centre et dont on ne veut pas refaire la politique parce qu'il est en train d'exploser et si vous vous rassembliez, il exploserait.
Merci Vincent Limanoc.
Ben, moi, je demande à nos auditeurs de pas, de regarder les sondages avec précaution.
Ah ben, de toute façon, vous voulez les interdire, c'est dans le programme.
Ah
ben si, il y a une mesure d'interdiction proposée dans l'avenir en commun, une mesure d'interdiction des sondages en période électorale, donc comme ça, c'est réglé.
Ah ben ça serait pas mal, oui.
Ben, c'est dans le programme, vous l'avez.
Oui, ça serait pas mal, ça serait
même
pas
sur
mal.
Les sondages, un candidat, c'est mieux que deux. Même,
y a mais pas comme besoin, vous passez votre temps à nous caricaturer,
Non, moi je passe mon temps à lire les programmes, donc j'ai lu l'interdiction des sondages.
C'est la raison pour laquelle je suis en train de vous dire, pour étayer ça, eh bien... qu'il faut les prendre avec précaution.
Mais même sans dire les
chiffres qu'il donne, les chiffres qu'il donne aujourd'hui se font sur la moitié des Français qui ont décidé de voter. L'autre moitié n'a pas encore décidé ce qu'elle a voté. Et parmi ces 50%, la plupart des gens, moi j'en connais plein, qui ne voteront plus jamais PS. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut faire émerger autre chose. Par ailleurs, j'attire votre attention sur les enquêtes, et pas les sondages, les enquêtes brutes sorties sur des gros échantillons de 6000. Jean-Luc Mélenchon sort entre 16 et 18%. Vous voyez qu'on est au seuil du deuxième tour. Ça, il faut qu'ils le sachent, les auditeurs.
D'où sortez-vous ces informations ?
Filteris.
Hein ?
Enquête Filteris, regardez, c'est public.
Ah oui, alors attendez, Filteris, c'est un truc qui procède pas à des sondages.
Je vous dis une enquête, c'est pas un sondage, c'est pour ça que je vous dis les sondages, faut prendre avec précaution. Ouais. Moi, je regarde les enquêtes sur des gros échantillons qui ont prédit par exemple la victoire du Brexit.
Oui, d'accord. Mais Thierry, enfin, personne n'accorde aucune crédibilité à ce truc-là, à part vous.
Beaucoup de gens accordent une crédibilité à ça, beaucoup plus qu'à des sondages qui sont systématiquement trompés.
Bon, écoutez, on va...
Est-ce que vous avez essayé...
Attendez, moi, quand je dis aux sondeurs, pourquoi vous nous appliquez un coefficient de 0,8? C'est-à-dire qu'on sort entre 16 et 18 et on multiplie notre score par 0,8 et on nous ramène à 11,12. Il y a un petit problème.
Non, mais moi, je ne connais pas tous ces chiffres. Il y a une commission des sondages pour vérifier tout ça.
Quand on veut comprendre.
Mais on ne vous parle pas de sondage, Limbanov. On vous parlait de deux candidats au lieu d'un, ce qui mais est évidemment diminue les chances.
Mais c'est pour ça que je vous dis que le candidat le mieux placé, ce n'est pas forcément Benoît Hamon aujourd'hui, qui a des difficultés pour rassembler son propre parti et qui est en délicatesse parce qu'il est estampillé PS avec une grande majorité de nos concitoyens qui par ailleurs, ne font pas la différence entre un frondeur et un social-libéral et entre deux rocardiens. Donc aujourd'hui, pour beaucoup de gens qui ne veulent pas aller voter, le PS a été aux affaires trois fois au cours de ces 30 dernières années et à chaque fois on nous a fait une campagne de gauche pour appliquer une politique de droite. Donc ils veulent autre chose et c'est ce que nous leur proposons.
Vous reconnaissez quand même que Benoît Hamon opère une transition lui aussi écologiste. Le programme de Benoît Hamon se rapproche beaucoup du vôtre et que on a l'impression qu'il y a quand même une dimension historique qui échappe à ces deux leaders et qui peine beaucoup d'électeurs, non ?
Je ne vais pas dire du mal de Benoît Hamon, enfin bon, à part le revenu universel qui n'est plus du tout un revenu universel, je ne sais pas quel est son programme. Nous avons un programme achevé de 357 mesures chiffrées et parfaitement crédibles, et je pense que les Français vont nous juger là-dessus.
Précision d'une auditrice, Colette, qui fait référence à l'appel précédent, ce n'est pas Jean-Marc Ayrault qui a supprimé la demi-part des veuves et des veufs, c'est Nicolas Sarkozy en 2008, c'est vrai. Une dernière question, Mathilde qui nous appelle de l'Isère. Bonjour Mathilde.
Bonjour, merci.
Nous vous écoutons.
Bonjour, représentant de la France Insoumise. La question que je posais dans un contexte de pénurie de logements orchestrée conjointement par les pouvoirs publics et les pouvoirs économiques, je voulais savoir qu'est-ce que la France Insoumise ferait contre la spéculation immobilière et foncière.
Merci pour cette question, Mathilde Limbanock.
Nous projetons de construire 200 000 logements publics. Ça coûtera 18 milliards, ça a été chiffré, et ça permettra de détendre le marché du logement.
Bon, et ben voilà. L'avenir en commun, c'est au Seuil, c'est paru il y a quelques mois. Et puis, un insoumis devrait dire ça, où vous détaillez l'essentiel des propositions. Ça paraît aux éditions du CERF Limbanock. Vous restez avec nous, car Augustin Trapenard va vous poser une question. Et puis, on va retrouver Sophie Aram.